Non, parce qu'on va voir Abba de Mort
Ah
et
ben si, si.
Albinus Alcuin, qui va avoir Saint-Martin de Tours et qui sera aussi un des conseillers de la République de Charlemagne. Et c'est important parce que Alcuin, en fait, au 8e siècle, hein, vraiment fin 8e siècle, ça sera aussi un des conseillers et des théologiens qui va conseiller les moines des Asturies, c'est-à-dire du nord de l'Espagne, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si vous voulez, vous avez un personnage, l'Europe, l'Europe c'est vrai, mais j'ai commencé un peu plus tôt, mais je fais une petite révision pour remettre dans le... c'est incroyable de se dire qu'il voyage énormément. Hein. Même, et alors, le latin, effectivement, permet d'unifier, y compris les cultures. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, d'ailleurs, l'Église a un rôle important, même politique, parce qu'elle elle fait le lien, même au niveau du langage, entre toutes les autorités. Et Alcuin et Rabban de Mort sont donc des théoriciens. Alors, c'est assez marrant, comment ils sont représentés là, dans les deux manuscrits, hein, tous les deux, plusieurs fois, hein, donc c'est pas juste un hasard. On les voit en train d'apporter des textes, on voit aussi l'importance des textes et des livres. Hein. Transmettre les textes, transmettre les évangiles ou les bibles, on voit que le livre est vraiment un enjeu absolument essentiel. Hein. Et aussi, ces théologiens qui sont aussi artistes, hein, notamment Rabban de Mort, c'est eux aussi qui vont conseiller, notamment Alcuin, Charlemagne. Et rappelez-vous aussi, Charlemagne, avec Roland, vont descendre jusqu'en Espagne. Donc il y a l'idée d'une reconquête culturelle, j'ai commencé un peu plus tôt, et territoriale, qui est très importante et qui sera un des enjeux de ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je rappelais ça juste, c'est juste qu'on a vu la dernière fois, c'était en attendant. Rappelez-vous, ça c'est des manuscrits carolingiens, qu'on dit carolingiens, c'était l'évangile de Saint-Denis, mais dans lequel, comme je vous l'ai montré la dernière fois, on voit bien, et ça c'est typique de l'influence celtique, hein, on voit bien qu'on est très proche des Book of Kells et du Lindisfarne, du manuscrit de Lindisfarne, et on voit bien que tout ce qui est relatif souvent au texte est quand même porté par cette tradition des monastères, on va dire celtes, irlandais, écossais. Là encore, hein, c'est l'évangile de Saint-Denis, on retrouve exactement les mêmes lettrines, hein, que dans les manuscrits celtiques. Ça, je vous ai montré les manuscrits carolingiens. Alors, on voyait aussi dans les manuscrits carolingiens, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu, c'est aussi la rencontre de plusieurs styles. Le style des entrelacs nordiques, un style graphique, on va dire, qui est non figuratif, et puis un style figuratif que l'on va voir ici, avec l'ange devant le tombeau de Jésus ressuscité, les soldats endormis, les femmes qui arrivent devant le tombeau pour faire les soins, et donc d'un coup, vous avez deux traditions qui se rencontrent ici, et ça sera assez typique. Salut Martine. J'ai commencé un peu plus tôt, parce que... Voilà, donc tu n'es pas en retard. Donc, vous voyez, alors ça c'est aussi très important, parce que rappelez-vous, on a vu Galla Placidia, toute la tradition byzantine, architecturale, monumentale, qui porte tout l'héritage romain de la représentation, de la mosaïque, de l'illusion, du naturalisme. Et vous avez tout un héritage presque abstrait qui vient beaucoup plus de l'Irlande, du Nord, des pays plutôt, qui sont liés à ce qu'on appelle l'art des invasions, c'est-à-dire l'art des bijouteries, joailleries, broderies, et qui sont beaucoup plus aussi théoriciens près du texte. Et on peut dire que du côté de Charlemagne et de l'Empire carolingien, c'est un peu la rencontre de ces deux choses-là. Et il va y avoir cette espèce de constitution progressive d'un vocabulaire sacré, artistique, hein, mais dont on voit très bien les différences de style. Alors, ça se voit encore plus. Alors là, j'étais dans le carolingien, ça, on a vu ça la dernière fois. C'est un petit rappel, hein, pour ceux qui ont vu juste. On le voit, regardez, même, et ça c'est assez rigolo, dans la Bible de Saint Paul Orlémur, et là je termine ce chapitre-là, donc elle est à Rome, hein, Saint Paul Orlémur, elle est à Rome, et vous voyez que dans une Bible qui est à Rome, espace méditerranéen, totalement influencé par les traditions de représentation gréco-romaine, latine, etc., on retrouve quasiment exactement les mêmes lettrines et les majuscules et les capitales que dans les manuscrits irlandais. Alors c'est pas étonnant, puisque, et là encore, hein, on retrouve ces entre-là, hein. C'est à peu près la même époque, hein. On est dans le 8e, 9e siècle. C'est très clair, ça veut dire qu'effectivement, bah, c'est au moins irlandais, ils voyagent, hein. Et ils ont fait leur preuve dans ce domaine-là, comme étant peut-être ceux qui sont, du côté des manuscrits, capables le plus de densifier la création artistique autour de l'écriture, autour du texte. Alors que, si vous voulez, c'est toujours la même Bible, mais dès qu'on passe dans l'image et la figuration, dans cette Bible-là, on retrouve la tradition romaine, si vous voulez, ou grecque, de représentation, de naturalisme, d'ombre, de paysage, des couleurs, de modelé et de figuration. Donc vous voyez, là, on a vraiment là, quelque chose qui se constitue, c'est la rencontre de, d'univers culturels et de vieilles traditions très très différentes. Et là encore, hein, c'est toujours la Bible de Saint Paul hors les murs. Vous voyez, hein, là encore, les effets de nuages, de climat, l'architecture, les assemblées, les soldats romains, l'ombre propre, l'ombre portée, les couleurs naturelles, etc. Et ça encore. Donc ça, c'est une Bible grecque aussi, pour montrer la tradition méditerranéenne est très différente de la tradition nordique, pour les mêmes textes, des Bibles, mais c'est un rapport à l'image, au corps, à la nature, à la figuration, qui est chaque fois différent. Là, vous avez une très claire dissociation, le texte d'un côté, l'image de l'autre. Dans la tradition irlandaise, tout se mêle, on se perd dans le texte nous perd, on arrive dans les entrelacs, l'abstraction, etc. On est dans des préoccupations, il y a moins de clarté, on veut dire de dissociation de la pensée, alors que la tradition gréco-romaine, c'est pas un hasard, d'ailleurs, au niveau de la philosophie, ça sera beaucoup plus clair, la séparation de la raison et de la foi, ce genre de choses seront beaucoup plus claires dans la tradition gréco-romaine que dans la tradition nordique, où on est beaucoup plus du côté du mythe, etc. Alors voilà, toujours cette Bible gréco-romaine donc de tradition méditerranéenne, de la même époque, où on voit encore la persistance du principe de l'imitation dans l'art sacré. Toc. Et là aussi, alors c'est assez drôle, puisqu'on voit les marquages locaux, puisqu'on voit les romanaires, le côté oriental, hein, qui est très clair dans ces Bibles-là. Donc, je passe. Et évidemment, vous avez aussi, dans la tradition méditerranéenne, cette fois-ci, une dissociation, quelque chose qui, tout d'un coup, nous rapproche de la tradition irlandaise. Et bien, c'est les Corans. Hein, et toute la tradition coranique du texte et de l'écriture, ça on a vu, où justement, là, on se débarrasse totalement de la figuration, peut-être parce que la figuration dans le bassin méditerranéen, elle était trop proche de la réalité, trop du côté de la séduction, trop de l'imitation. Donc peut-être que la tradition gréco-romaine, elle a vu naître l'iconoclasme à Constantinople et dans la tradition musulmane, sans doute parce que la tradition gréco-romaine était trop figurative. Et donc, semblait s'éloigner trop du religieux. Les Irlandais ont déjà eu le problème, si vous voulez, d'iconoclasme. Alors, on voit d'ailleurs dans ce Coran-là, qui est à peu près aussi de la même époque, hein, j'ai pris un Coran, je crois que c'est une copie, hein, mais un Coran absolument magnifique aussi, hein, où là, on trouve le tapis, on trouve le travail sur l'écriture, on trouve les commentaires, on trouve les différents statuts de l'écriture, et il y en a évidemment un grand choix, là encore, hein, absolument magnifique. Et là, on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'esprit irlandais. On trouve même l'entrelac, on trouve la calligraphie, et on trouve l'importance donnée aussi au texte dans lequel on se perd, que l'on décode parfois, puis tout d'un coup, au contraire, dans lequel on se perd. Alors ça, c'est donc la tradition. Et là encore, un autre Coran. Alors le tapis, la plage tapis, on l'a vu dans les manuscrits irlandais. Dans la tradition musulmane, le tapis, rappelez-vous, c'est aussi l'ordre, c'est le jardin. Le jardin, c'est le paradis. Et c'est aussi le monde ordonné par la religion. Alors, ça, je le rappelle souvent, parce que ça me fait rire. Quand Jésus apparaît Marie de Madeleine en jardinier, c'est toujours assez rigolo, il l'appelle sur l'épaule, le chapeau, etc. C'est l'idée qu'il arrive ici pour ranger le monde de nature étant peut-être trop prolifique, trop désordonné. Et Jésus en jardinier va ranger les choses, permettre que les choses croissent mieux, etc. Donc le tapis, le jardin, c'est aussi toute une thématique qui est associée, hein, au sacré, comme on le voit ici, dans une tradition méditerranéenne, mais cette fois-ci non chrétienne, mais biblique. Alors, maintenant, je change de chapitre, c'était une petite transition. On va voir ce qui s'appelle, c'est presque une catégorie à part, les Beatus. Alors, les Beatus, d'abord il y en a plusieurs. Hein. Les Beatus, maintenant on en compte à peu près une quinzaine, hein, jusqu'à celui de San Pedro, etc. Donc enregistré, et ça va à peu près du 9e siècle, le tout premier c'est 9e siècle, jusqu'au 12e siècle. Et c'est un texte, Beatus d'ailleurs c'est le nom d'un moine, hein, Beatus c'est Beatus de Liébana en Asturie.
C'est lié à
Alors c'est son nom, donc c'est lié à ça, mais c'est son prénom comme. Il est devenu, c'est Beatus du monastère de Liébana dans les Asturies, à la frontière entre Cantabrie et Asturie. Souvent, les gens ne connaissent pas bien cette... l'Espagne du Nord, vous avez Pays Basque, Cantabrie, Asturie, Pays de Galles. Pas Pays de Galles, Galice. Donc, en fait, vous avez quatre régions assez différentes qui vont jusqu'à l'ouest. Et Cantabrie, Asturie, par exemple, Santander, c'est Cantabrie, Oviedo, c'est les Asturies. C'est vraiment au sud de la Bretagne, vous descendez, pouf, vous arrivez là. Donc, c'est un paysage très montagneux, très encaissé. Et ça, c'est important, la géographie, pour ce qui est de ces secteurs-là. Alors, l'Espagne du Nord n'est pas très connue. Je vous l'avais dit, je ne sais plus où je me répète. Je suis allé, dans, j'y vais assez souvent, mais voilà, même pas une dizaine d'années, 7 ou 8 ans, je suis allé à Liébana. Je ne connaissais même pas l'existence du manuscrit de Beatus. Et dans le monastère où ce Beatus avait vécu, c'est un petit monastère pré-roman, il n'y avait aucune mention de son œuvre. Ça, c'est, apparemment, visiblement, ce n'était même pas connu. J'ai pas connu. C'est par, hasard, par la suite que je me suis dit, mais Beatus de Liébana, j'y suis allé dans ce truc-là, dans ce monastère-là. Il n'y avait aucune trace. C'est-à-dire que c'est une découverte relativement récente. On est en train de redécouvrir cette tradition. Alors, comme je vous l'ai dit, grâce aux numérisations, c'est des choses auxquelles on accède maintenant de plus en plus. Et on est en train aussi de réaliser l'importance culturelle que ça a pu avoir, y compris avec des prolongements très contemporains actuels, par exemple les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais y venir là-dessus. Donc si vous voulez, vous avez autour de cette culture des Beatus, ce qu'on appelait les Beatus, qui est devenu un genre, quelque chose de très important. Alors les Beatus, en fait c'est des apocalypses de Jean, c'est l'apocalypse de Jean qui est donc dans la tradition des évangiles, Jean c'est l'évangéliste, celui qui a connu Jésus, le petit jeune, là, vous le savez, qu'on voit parfois, qui pose sa tête sur Jésus, etc., qui est son cousin, etc., et dont le frère est Jacques, on verra plus tard que c'est important aussi.
C'est justement vrai, Jacques, ça n'est pas, c'est pas réel.
Ah, pff, on ne sait pas ce qui est vrai, effectivement. Comme il y a à peu près 150 évangiles, mais il n'y a que 4 retenus, je dis, il y a quelque chose à un moment qui est vrai, c'est qu'il y a eu quelque chose. Le texte existe, en tout cas, donc il y a bien quelqu'un qui l'a écrit, voilà. Ah voilà. Donc, le texte de Jean, âgé, aurait écrit cet Apocalypse. Apocalypse qui est un des textes, je ne sais pas si vous avez lu, c'est incompréhensible. C'est le texte le plus irrationnel, le plus fantastique, presque le plus archaïque qui existe dans l'Évangile. Dans les textes, donc, même dans le Nouveau Testament. Alors que tous les évangiles traditionnels sont très clairs, c'est l'histoire de Jésus, c'est simple. L'Apocalypse, c'est une vision qui s'assimile peut-être aux visions apocalyptiques qui sont déjà dans... Par exemple, les visions de Daniel ou de, je crois que c'est Jérémie, dans la tradition biblique, on est beaucoup plus dans les choses mythiques et comme si c'était un des derniers feux d'une sorte d'archaïsme, d'une pensée religieuse totalement archaïque avec justement des visions, des interprétations, des monstres, des bêtes qu'on ne trouve pas dans l'évangile traditionnel. Dans les textes de Marc, Luc, Matthieu, etc., vous avez un diable par-ci par-là, mais c'est tout. Donc là, on a vraiment quelque chose de fantastique. Alors pourquoi est-ce que Beatus récupère ce texte de l'Apocalypse, qui était quasiment très peu utilisé, ben sans doute pour des raisons aussi politiques, géopolitiques. Géopolitiques, de la même manière, en fait, que Jean l'avait peut-être écrit pour lutter contre Néron, c'est ce qu'on pense. C'est que Jean avait écrit l'Apocalypse pour dénoncer les bêtes, les monstres qui menaçaient le monde, etc., comme étant une sorte de... les païens, la dégénérescence justement de Babylone, de l'Empire romain, tout ce qui était un peu antéchrist, et les menaces qui pesaient sur le monde créé par Dieu, par le christianisme, sans doute c'était une sorte de vision pour motiver des troupes, sans doute les premiers chrétiens. Et il se trouve que le moine Beatus, alors attendez, je vais vous montrer quand même les lieux, le moine Beatus au 8e, 9e siècle, il est dans ce petit monastère qui, depuis, est un peu plus grand, mais qui était un petit monastère perdu dans les montagnes de Cantabrie. Et en fait, on est au 8e siècle, on est pile dans une zone dans l'Espagne qui est une zone de grand conflit, puisque, et de lutte d'influence. Pour faire simple, je vais essayer de faire simple, vous allez voir, c'est pas simple, mais en même temps, c'est intéressant. Pour faire simple, les cartes, pour faire simple, c'est compliqué. Alors, ça c'est la France en 1800, attendez, en 1000, si je reviens à peu près ici, voilà, alors, en quelque chose près, vous avez ça, à peu près l'époque du moine Beatus, les Asturies, c'est là. Vous avez ici, toute la péninsule ibérique a été conquise par les musulmans à l'Andalous qui arrivent, etc. Alors attention, ces quelques centaines, quelques milliers de, sans doute, berbères d'Afrique du Nord, etc., musulmans, pour des raisons, je crois, de conflits internes en Afrique du Nord et dans le monde musulman, ils remontent en Espagne, et c'est pas des centaines de milliers, c'est souvent une élite qui arrive, un petit peu comme quand les Francs sont arrivés, etc., et qui va convertir une Espagne dans laquelle le christianisme n'existe quasiment pas, hein, c'est en miettes, parce que c'est... Et surtout, le christianisme qu'il y avait en Espagne, c'était un christianisme un peu hérétique, parce que c'était les Visigoths. C'est les Visigoths qui étaient arrivés là, et les Visigoths trimbalaient une sorte de tradition chrétienne hérétique qui disait que Jésus était en fait pas Dieu. C'était, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'était adopté par Dieu, c'était le fils de Dieu, plus ou moins, alors soit adoptionné, soit son fils, mais il n'était pas Dieu lui-même, il était divin mais pas Dieu. Bref, des querelles byzantines, toujours est-il que par rapport à la tradition musulmane et à la construction de la culture musulmane, ça colle parfaitement avec l'idée que Jésus est un prophète, mais pas Dieu. Donc si vous voulez, vous allez avoir une bonne entente entre les chrétiens visigo-adoptionnistes, c'est un peu compliqué, mais qui sont quand même chrétiens, et les musulmans, et donc ça va être, ils vont avoir une grande tolérance. Par contre, dans les Asturies, toutes les Asturies, royaume de Navarre jusqu'à Barcelone, toute l'Espagne du Nord, qui est ensuite protégée, on va dire, géopolitiquement par les pics d'Europe, qui sont des gigantesques montagnes très difficiles d'accès, eh bien en fait, l'islam n'arrive pas. L'islam n'arrive pas, et les Visigoths non plus ne sont pas venus, donc si vous voulez, toute l'Espagne du Nord, elle va être un peu sanctuarisée, certains moines, un peu à la mode des moines irlandais, dans des petits monastères, constituent des pôles chrétiens, en parlant latin, etc., ils sont un peu isolés les uns des autres, mais ils vont constituer une sorte de base théorique et culturelle, beaucoup plus fidèle à Rome, on va dire, et à l'orthodoxie chrétienne, etc. Et il se trouve que là, on est en plein, vous savez, les luttes avec, effectivement, la pression, on va dire, qui vient du sud, la bataille de Poitiers, les batailles qu'il va y avoir dans les Asturies contre les Maures, etc., c'est quelque chose d'important. Et le moine Beatus sera donc un des théoriciens de cette espèce de construction d'un royaume asturien autour de textes. Alors, l'Apocalypse, justement, il va l'utiliser de manière en disant, en gros, c'est plus Néron qui menace, ce sont les Visigoths et les musulmans. Donc, il y a un antéchrist moderne, c'est eux. Et si vous voulez, et lui, autour de l'Apocalypse, il va faire ce commentaire et il va créer un texte qui va servir de base à la constitution d'un royaume orthodoxe, enfin, chrétien, catholique, prêt à résister aux hérésies visigothes et à l'islam. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui va être important. Alors, les lieux, juste quelques exemples, les lieux, donc voilà quelques-uns des petits monastères qui restent. Alors maintenant, ça c'est un peu plus récent, mais vous avez... certains sont, alors ils sont vraiment isolés hein, dans la campagne. Souvent, c'est, alors ça, c'est des églises, on va dire, pré-romanes, hein, on est avant l'art roman. On voit d'ailleurs l'influence orientale et arabe même dans les arcs outrepassés. Hein. Et ici, encore, celui-là est très très beau, hein, ça, c'est le Salvador de Valdelios. Encore, celui-là est plus ou moins important, bon, ça c'est autre chose. Et évidemment, Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, on verra aussi. Vous voyez un petit peu ce type d'oratoire, mais qui disent bien un petit. Là aussi, ils font des toutes petites églises, un peu perdues dans les montagnes, dans la campagne. On n'est pas du tout dans une tradition urbaine de ville, etc. Ce sont vraiment des marquages et des pôles comme ça, dans les montagnes, etc., avec l'idée de christianiser et d'unifier aussi. Alors, pour unifier justement toutes ces espèces de lieux, eh bien, autour de Beatus va avoir cette idée de trouver un texte. C'est-à-dire d'avoir un texte qui sera commun. Et c'est celui-ci qui va donc avoir ce succès que je vous montre. Alors, en gros, mais ça, il me semble en parler, ce texte-là va circuler de monastère en monastère, va être copié, recopié, et constituer un corpus culturel et iconographique aussi, absolument fondamental. Alors, juste une chose, le seul qui est en France, c'est d'ailleurs assez rigolo, c'est le Beatus de Saint-Sever qui est gardé à la Bibliothèque Nationale de France, hein, à la BNF, et qui est effectivement entièrement scanné, vous pouvez l'avoir entièrement, ce qui caractérise justement les Beatus, alors je reviendrai un petit peu là-dessus, je peux vous les montrer tous, c'est, d'abord, je passe un peu vite, mais c'est la qualité des illustrations, des couleurs, la clarté, la générosité, et puis c'est peut-être un des premiers textes qui combine autant texte et image. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de l'image dans le Beatus qui est très importante. On va le voir. Une mise en page remarquable. Hein, je passe toutes les couleurs. Et puis, on peut dire que c'est la Bible, mais c'est aussi la Bible, y compris des images. Vous avez la constitution d'une sorte d'imagerie d'une grande cohérence. Alors, Saint-Sever, ce n'est pas un hasard, parce que c'est les Landes. C'est vraiment le bas des Landes. Et si vous voulez, c'est le goulot aussi d'étranglement vers les Asturies. Donc, on va voir, c'est que Beatus blinde un petit peu théoriquement toute l'Espagne du Nord. Il va réussir à relier aussi, associer le roi et la reine d'Asturie à ce texte-là, il va leur dédier. C'est que ce texte-là, il est non seulement chrétien, mais aussi il va le relier au roi et la reine d'Asturie pour essayer d'établir effectivement des territoires à la fois religieux, mais y compris terrestres. C'est-à-dire qu'il va se relier à des puissances terrestres. Exactement comme Alcuin l'avait fait avec Charlemagne, comme on a vu les chrétiens l'ont fait avec les impératrices et les empereurs byzantins, eh bien vous avez la volonté de lier le texte sacré avec des pouvoirs terrestres.
C'est écrit en latin toujours.
Alors c'est toujours en latin, c'est en latin, etc. Alors, par la suite, le genre de Beatus va servir de modèle à toutes les apocalypses qu'on verra au XIIe, XIIIe siècle, et on verra plus tard dans la tradition plus nordique. Mais toujours est-il que c'est né exactement à cet endroit-là. Alors il y a même un Beatus qui est portugais, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de différence. Alors juste le Beatus portugais, juste quelques exemples ici, donc on reviendra. Alors, je reviendrai sur cette figure qui est très importante. Ce qui est assez marrant, c'est que ce Beatus de Lorvao, il est uniquement jaune et rouge. Et voilà à peu près le type d'objet que c'est. Ce sont des gros livres extrêmement précieux. Maintenant, il y a des facsimilés, on les trouve. Alors, je reviendrai maintenant sur les images que l'on trouve dans les Beatus, sur les scènes précisément, parce que c'est aussi important. Ah, pourquoi ça? Ah oui, c'est parce que c'est là. D'accord. Alors, maintenant, revenons un petit peu sur le déroulé du Beatus, parce que je ne vais pas vous les montrer tous. D'abord, une chose à propos aussi de l'archéologie récente des Beatus, parce que ils sont dispersés pendant longtemps, ils ont été dispersés, achetés par parfois même des pages arrachées, des pages vendues les unes par les autres, celles qui étaient enluminées puis les autres ont été oubliées. On les trouve aux États-Unis, on les trouve en Espagne, on les trouve en France, on les trouve en Angleterre. Et souvent même la qualification, leur nom était un peu compliqué. Moi j'ai mis un temps fou à voir que celui de Pierre Ponce était le même que Lorvao, etc. Ils avaient des noms parce que soit ils étaient désignés par la bibliothèque qui les a accueillis, soit ils étaient désignés par les lieux dans lesquels ils avaient été faits, soit ils étaient désignés par les personnes à qui ils avaient été donnés. C'était le roi et la reine par exemple. Donc vous avez un Beatus, il a trois noms différents. Soit c'est le roi et la reine à qui il a été donné, soit c'est la bibliothèque dans laquelle il est gardé, soit c'est le monastère dans lequel il a été conservé. Donc c'est assez difficile de reconstituer le style précis de chaque Beatus. Donc vous avez quelque chose. Toujours est-il que c'est vraiment, dans tout ce qui est art pré-roman, peut-être une des œuvres les plus intéressantes dans l'histoire de l'art chrétien. Alors, le déroulé proprement dit. Là, j'ai fait quelque chose de... C'est un peu une prise de tête, mais c'est assez intéressant. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer, parce que c'est long et compliqué. J'ai essayé de trouver dans plusieurs Beatus la même scène à chaque fois, dans le même ordre, parce que c'est très rangé. C'est-à-dire que Beatus, de ce point de vue-là, le moine, a vraiment fait un travail très clair, parce que l'Apocalypse était quasiment incompréhensible. Et pour la rendre digeste, eh bien, il va l'associer avec des scènes de la Bible, y compris avec des textes un peu, on va dire, plus cohérents et plus politiques. Donc il va la relier d'abord à la croix d'Oviedo. C'est-à-dire que lui, il veut que ça soit aussi ce Beatus, et cet Apocalypse qui était un peu hors du temps, hors du sol, il veut la relier aux Asturies. Donc il va en initiale de chaque Beatus qu'il va faire, vous allez avoir la croix d'Oviedo, c'est-à-dire le nœud, le territoire même, le centre des Asturies, on va dire géopolitique et sacré. La ville d'Oviedo va devenir le lieu sacré par excellence. Et tout va être inauguré par cette croix d'Oviedo, qui est associé à l'alpha et à l'oméga, donc au Christ, Jésus, etc., dans une architecture, dans laquelle, d'ailleurs, vous avez des petites influences celtiques que l'on voit. Alors, c'est pas étonnant, puisque Alcuin a rencontré Beatus, donc, vous voyez, ce moine irlandais est arrivé jusqu'en Asturie, vous voyez, il y a des liens qui se font, et donc vous avez cette idée de construire, y compris une architecture et une entrée qui est très claire. Alors, cette croix d'Oviedo, On la voit encore ici. Alors, elle peut être variable en fonction des... C'est ça qui est assez intéressant, c'est que, si vous voulez, même selon les styles locaux des monastères qui vont copier, ça va, vous allez avoir des genres et des types différents. Mais on trouve toujours l'alpha, l'oméga et la croix. On la retrouve encore ici, avec notamment ces quatre mots qui sont aussi l'établissement d'une inscription dans l'espace terrestre, hein, et dans la politique, on va dire, c'est « Pax lux rex lex », la paix et la lumière, le roi et la loi. Donc, c'est à la fois la chrétienté, la religion, l'architecture, quelque chose de bâti, de construit, et en même temps le lien avec le monde réel et le monde terrestre pour instaurer la loi. La loi et les règles. Et là, vous voyez aussi ce que je vous disais tout à l'heure, le mélange d'une influence nordique avec aussi une tradition plus figurative, plus méditerranéenne et latine. La croix d'Oviedo, encore ici, toujours pareil, là encore, avec même des styles presque irlandais, mais ce sont toujours des Beatus, hein. Celui-ci c'est celui Santo Domingo Silos, celui-ci c'est le Beatus Facundus, et dans laquelle vous allez avoir effectivement toute cette idée de construction. Alors cette fois-ci on voit surtout le alpha et l'oméga qui sont là, le début et la fin, hein, de toute chose, cette idée d'un cadre, d'un ordre qui est en train d'être établi. Parce que l'apocalypse de Jean, elle est très disparate, c'est quand même ouvert, on s'y perd. Mais là, vous avez quelque chose qui est construit, on va dire. Et ça, c'est l'invention du moine Beatus, hein, et qui est donc reprise et qui fait école. Deuxième élément dans le Beatus, qui vient ensuite, c'est l'apparition de l'agneau. Hein, l'agneau pascal comme symbole. Donc vous avez toute une construction des choses qui par la suite vont irriguer, vont essaimer dans toute la tradition artistique chrétienne du Moyen-Âge. Donc vous avez l'agneau pascal comme figure de Jésus, entouré par les quatre évangélistes. Donc vous avez ici l'aigle, le taureau, le lion et l'ange, hein, qui sont les quatre évangélistes. Vous avez aussi cette idée d'une structure, de l'établissement d'un centre chrétien, des quatre variations, des quatre variantes de l'évangile. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on va trouver dans tous les... On trouve, alors avec des variations, c'est ça aussi qui est assez intéressant. On trouve toujours l'agneau, on trouve toujours les quatre éléments des quatre évangiles, etc. Quels que soient les Beatus, donc vous voyez, c'est vraiment un schéma qui est copié. Alors là aussi, où c'est vraiment touchant, c'est que c'est plus le schéma qui est copié que les styles eux-mêmes. Les styles peuvent être quand même assez différents, et c'est là où on voit bien qu'on est encore dans une sorte de balbutiement d'une iconographie et même de genre artistique, parce que par la suite, regardez les églises gothiques, surtout la France, c'est tout pareil, le style roman, il y a des variations, mais c'est très homogène. Là, on voit encore qu'on est dans un monde avec des influences extrêmement variées, parce que parfois c'est une influence celtique, parfois c'est une influence, on va dire, mozarabe, influencée par la tradition musulmane et visigothe, parfois c'est une influence presque latine ou gréco-latine. Vous avez des styles différents, mais on voit bien que la structure est la même.
Qu'est-ce qu'il en faisait ?
Alors ça, c'était les monastères. Alors une fois les monastères, c'était en gros le grand œuvre qui permettait. D'abord, ils avaient. Quand on regarde l'architecture, le livre, le manuscrit était presque plus important que le bâtiment. Les bâtiments, c'est des petits trucs. C'était vraiment le. Tout était là en fait. Tout était dit. Toutes leurs références culturelles, artistiques, théoriques étaient autour du texte. C'est ça qui est très important, c'est l'importance du texte. Alors on va voir d'ailleurs l'importance du livre, c'est que c'est une religion qui se constitue de façon intellectuelle autour de contenu. Autour de contenu qu'il s'agit d'établir, mais comme effectivement une pierre angulaire. C'est presque plus important encore que les bâtiments, etc. Il s'agit de structurer mentalement toute une population.
Mais on le lisait...
C'était peu. D'abord, c'est des gros livres, hein, ouais. Extrêmement précieux. On peut dire que pour faire un livre comme ça, vous allez voir, c'est des heures et des heures de travail. Donc c'est, comme on disait, le parchemin coûte très cher. Donc c'est des œuvres denses, c'est des œuvres, c'est des bijoux, c'est des œuvres d'art, c'est des œuvres intellectuelles. Donc ils étaient consultés sur place. Consultés sur place, et sans doute que c'était lié à des cérémonies, des lectures, des prières, etc. C'était un objet de culte. Mais y compris, pas que de culte, parce qu'il y a aussi du texte, et il y a un esprit qui s'établit là-dedans. Donc là, on voit bien le Beatus constitué. Alors, d'ailleurs... Dans ce Beatus, on va voir justement la transmission du livre. Là, on voit Dieu, Jésus, qui donne un texte à l'ange, et l'ange qui le donne à Jean. C'est-à-dire que d'un coup, la parole va circuler directement du Dieu à l'évangéliste, et à l'ange, et ensuite l'ange, ou le texte sacré, va arriver jusqu'à l'évangéliste. C'est-à-dire que d'un coup, on voit bien, dans presque toutes les images, vous avez la transmission Hein, la trans... Et là, regardez, il tient encore le livre. Il tient encore le livre, hein, l'apparition du sauveur, etc., qui tient encore le livre et qui va le donner, hein, ça on va le voir assez souvent, là encore. Hein, là, il s'agit toujours de l'aigle de Jean, qui tient encore le livre, là encore, le livre qui va être transmis, etc. Là, on voit l'importance, comme je te disais, c'est que c'est pas rien d'avoir un texte et un livre, puisqu'on le retrouve, on va même le relier à cette tradition. Et comme je le disais tout à l'heure, l'arcade ici, ça sert aussi de cadre, mais c'est aussi une référence à l'architecture, à la construction. Il faut savoir, dans les termes grecs, église, c'est à la fois le bâtiment, mais c'est aussi l'assemblée des chrétiens. C'est-à-dire que c'est symbolique et concret. C'est-à-dire que vous avez cette idée d'établir un cadre alors, religieux, au niveau des rituels, mais y compris au niveau des textes, au niveau des références. Et, alors, et qui est capable justement d'agglomérer toutes les cultures diverses et variées. Parce que tout le monde se retrouve dans cette structure. Et ça, c'est très clair. Et là, on retrouve encore, hein, ça c'est vert, hein, l'architecture est toujours bénie par l'ange. La transmission du texte, ça c'est quelque chose qui est très important. Et là encore, pour tous les évangiles aussi, alors ça c'est important, c'est que vous avez pas que vous avez quatre évangélistes. Symboliquement, c'est aussi aller dans les quatre directions, unifier le monde, relier aussi des traditions peut-être au niveau des animaux mythiques et mythologiques. Vous avez l'aigle, le lion et le taureau, hein, donc on trouve aussi ça, et puis l'ange, donc cette idée aussi d'aller aux quatre coins cardinaux, quatre évangélistes, c'est pas hasard, et toujours cette idée de la transmission et de l'évangile. Alors à propos de transmission d'évangile, une chose que l'on retrouve aussi dans les Beatus, alors ça j'ai pris celui qui est le plus beau là-dessus, je vais revenir après là-dessus, mais je crois que je vous ai déjà montré ça, c'est l'idée de la généalogie. L'idée qu'effectivement, eh bien, dans il y a unifier le territoire et les cultures autour d'un texte, mais il y a aussi l'idée que la transmission, c'est par le savoir, mais vous avez aussi une transmission de généalogie. Alors, pourquoi c'est important au niveau des Beatus, et ça c'est assez géopolitique, c'est qu'ils vont combiner la généalogie biblique, on sait que la Genèse, la généalogie c'est le début de la Bible, donc on va voir ici, hein, ici vous avez les généalogies avec les enfantements, etc., les croissances. Ça, on reviendra sur Adam et Ève parce qu'ils sont très mignons. Mais vous avez donc les généalogies de Abraham et Isaac, etc., avec à chaque fois, ben, c'est des arbres généalogiques, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont combiner aux arbres généalogiques de la Bible des arbres généalogiques, aussi compris des familles de rois et de reines et de princes, etc. C'est qu'en fait, il y a aussi l'idée, parce que un des objectifs des chrétiens pour stabiliser leur pouvoir, c'est aussi de s'allier avec les princes. Donc il faut que tout à coup, les princes, on les justifie sur terre. Pour les justifier sur terre, il s'agit aussi d'établir des généalogies princières. On a vu que les Byzantins le faisaient assez facilement, depuis Constantin, Constantinople, etc. Il y a tous les Constantins, et puis même Galla Placidia avec tous ses descendants, etc. Donc vous avez les Théodoses, etc., toute cette famille, etc. Mais il va s'agir aussi, on va le voir aussi avec Charlemagne, il s'agit d'établir des filiations et de montrer que les rois et les princes, eh ben, ça fonctionne comme dans la Bible, cette idée de généalogie, de légitimer un pouvoir spirituel, mais un pouvoir temporel. Donc la notion de généalogie, c'est quelque chose qu'on va trouver aussi dans les Beatus.
Excusez-moi.
Oui.
La scène là,
oui.
Il va se passer quelque chose là dans le roman.
Ah ben, c'est le sacrifice d'Isaac.
Oui. D'accord. Et ça se fait pas.
Ça, c'est Abraham, Philus, voilà, donc Isaac, etc. Donc,
il a été effectivement.
Non, ah ben non, il est, l'ange arrive et puis.
Voilà,
oui, il interrompt le sacrifice et il le remplace par l'agneau pascal, justement.
Voilà.
Donc l'agneau qui est commun, hein, de la tradition juive, musulmane et chrétienne, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit l'agneau tout le temps, en premier plan, c'est justement Jésus arrive pour conclure et finir quelque part. Donc l'idée des généalogies, on va les retrouver soit pour les rois et les reines, parfois, comme ici, hein, ou on va l'avoir aussi pour la filiation d'Adam et Ève. La filiation d'Adam et Ève, c'est-à-dire que l'humanité vient d'une filiation d'Adam et Ève, les patriarches viennent aussi d'une filiation, et les rois et les reines ont leur propre filiation. Vous voyez cette idée qu'on va essayer de tisser comme ça les liens. Alors, ils sont assez mignons, hein, Adam et Ève, mais vous verrez, on va les voir souvent. Ils sont très touchants. Voilà. Alors ça donne cette espèce de côté un peu schéma, d'arborescence complexe, qu'il faut trouver. Alors, lié à l'architecture, toutes ces combinaisons possibles Il y a des pages entières. Là, j'ai à peu près tout scanné. Bon, ça, je passe sur Saint-Sever. Alors, Adam et Ève, y compris, les voilà, on a vu l'importance. Alors, vous voyez qu'on est très, très loin du naturalisme. La feuille de vie et puis l'anatomie, ce n'est plus vraiment le problème. Hein, donc, des Adam et Ève, on les trouve toujours, y compris cette idée d'origine.
Ils sont toujours coupables, c'est ça?
Alors,
ils sont là dans le coin.
Oui, alors coupables, mais alors regardez aussi. Ici, Adam et Ève, ça, on va trouver ça dans tous les manuscrits de Beatus, nous avons aussi une représentation du monde. C'est la première fois aussi qu'on montre une carte, une map monde au sens strict. Map monde, elle va être dans tous les Beatus. Elle n'était pas dans l'Apocalypse de Jean. Hein. C'est vraiment Beatus, le moine, qui invente et qui introduit cette idée-là. Dans cette idée du monde, vous avez effectivement toujours Adam et Ève. Donc vous avez un monde qui se structure avec des limites, une espèce de fleuve qui entoure toutes les terres, hein, c'est de contour de la terre, avec les trois continents, 1, 2, 3, ici, donc Afrique, Europe et Asie, hein, c'est les trois continents, plus les terres lointaines, etc. C'est les grands fleuves qu'on va retrouver plus ou moins, les mers intérieures, et Adam et Ève. C'est-à-dire qu'on a un monde construit, un monde qui a une origine, un monde qui a un espace, qui est inscrit dans l'espace et dans le temps. Et dans tous les Beatus, vous allez avoir cette construction du monde, qui est là encore. Alors celui-ci, c'est peut-être le Beatus de Arroyo, Saint-Andrés de Arroyo, qui est le plus sophistiqué, mais je vous l'ai montré quand on a vu le graphisme, etc., qui est beaucoup plus sophistiqué. C'est cette idée aussi de structurer, de penser le monde comme un espace cohérent et relié. Et là, on a presque un atlas, et toujours Adam et Ève, donc l'espace et le temps qui sont structurés, et ça, c'est une invention vraiment des Beatus. Alors, il y a des variations, mais à chaque fois, la même structure. Vous voyez, Adam et Ève, les trois continents, sans doute ça c'est le Nil, hein, le delta du Nil, etc. Ça fait de la mer rouge. Hein. Là, je ne sais pas ce que c'est comme fleuve, il faudrait bosser un peu l'affaire, etc. Donc, ça c'est là encore. Alors, Adam et Ève, tiens là où ils sont, on ne voit plus. Là encore, Adam et Ève. Alors oui, ça fait partie. Celui qui fait de l'ombre avec son pied, c'est lié, alors ça c'est assez rigolo parce qu'on voit les mélanges des genres, c'est lié au voyage d'Alexandre, qui était un des textes de l'Antiquité gréco-romaine, qui racontait toutes les légendes d'Alexandre le Grand, qu'on retrouvait d'ailleurs dans des manuscrits persans et iraniens. On va retrouver Alexandre le Grand comme une figure héroïque. Mais Alexandre va jusqu'au bout du bout du bout du monde, jusque là où il y a des personnages fantastiques, dont certains qui ont un seul pied, et même pour avoir de l'ombre quand il fait chaud, ils font de l'ombre avec leurs pieds. Donc vous avez des trucs. Mais ce qui est drôle, c'est de le retrouver dans des textes chrétiens et bibliques. C'est que là, on voit bien qu'il y a aussi des fusions de vieux mythes dans cette espèce de les confins du monde. Et là, on le voit bien. Donc, vous voyez là, tous ces... Alors ça, c'est pleine page. Hein. Donc, on a quand même une idée assez remarquable. Ça, c'est le Beatus de Saint-Sever, hein, dans lequel on voit tout cela. Et ça encore, un Beatus de Escalada, San Miguel de Escalada. Toujours Adam et Ève en bas. Alors, ça, vous voyez l'état de conservation. Certains sont très abîmés. Hein. Donc, la représentation du monde, là encore, celui-là, c'est Beatus de Silos. Ça, c'est de Valcavado, etc. Donc, vous voyez, c'est ce qui est marrant, c'est quand on regarde, ils ont tous la même structure, tous le même truc, mais l'artiste, bah, il part d'invention, puis d'influence locale. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les Asturies, ça fait juste à peu près une dizaine d'années que maintenant, il y a des autoroutes. Mais quand il n'y a pas d'autoroute pour aller de Saint-Sébastien à Saint-Jacques-de-Compostelle, il fallait peut-être, je ne sais pas, 3 jours, hein, parce qu'il y a 600 km, mais c'était horrible, les routes. En même temps, c'était fascinant. Alors, une autre scène qui n'est pas dans l'Apocalypse de Jean, mais que Beatus va remettre, c'est le déluge. Cette idée aussi, quand même, d'une renaissance et aussi de ceux qui vont mériter d'être sauvés. Vous avez quand même cette idée d'une sorte de... Vous savez, il institue un pouvoir très clair, avec y compris cette idée du mérite, de ceux qui méritent d'être punis et ceux qui méritent d'être sauvés. Ça, par exemple, dans la question du déluge, et ça va vraiment être... Et donc, la scène du déluge, on l'a retrouvée dans tout... les Beatus, hein, et alors je vous mets à peu près dans l'ordre. Vous voyez bien qu'il constitue quelque chose, il établit vraiment des choses très claires. Voilà le déluge, voilà encore une autre version du déluge avec tous ceux qui sont noyés, avec certains ont l'air désolés, d'autres s'en fichent. Hein. Là on voit les animaux noyés, etc. Là on voit encore une vision du déluge, avec l'arche, et puis tout d'un coup vous avez effectivement l'oiseau de la fin du déluge qui arrive, la colombe qui arrive ici, mais vous avez toute cette idée, y compris, alors...
De Noé,
bien sûr. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans l'idée du déluge, comme dans l'idée de la map-monde, comme dans l'idée du texte, à chaque fois, il s'agit de borner, de baliser. combien d'animaux, combien d'espèces, combien de territoires, l'alpha et l'oméga, donc il y a toujours un début, une fin, on va numériser, ranger, généalogie, on a vraiment cette idée de construire et d'établir dans tous les domaines une taxonomie, c'est comme ça qu'on dit, hein, et un rangement de toutes choses, tout vivant. Alors c'est assez intéressant aussi parce que c'est aussi l'occasion de faire un bilan aussi du monde. Les merveilles du monde, l'exploration du monde, c'est pour ça que même l'exploration d'Alexandre le Grand, aller jusqu'aux confins, voir tout ce qu'il y a, ben, l'Arche de Noé, quelque part, c'est aussi, on fait le point. On fait le point et on repart à zéro en ayant rangé les choses et fait le point. Et là, vous avez cette idée avec le rameau d'Olivier qui arrive, alors, qui est représenté avec plus ou moins de sophistication. Alors ça, j'ai hyper zoomé dans les pixels, mais vous avez effectivement encore Noé qui tout d'un coup sort au milieu sur le mont Ararat, d'ailleurs, dit-on. Hein, et qui d'un coup voit l'oiseau qui arrive. Alors, vous avez ensuite, alors là, c'est encore le déluge, on a encore l'oiseau là, ici. Et puis les morts du déluge et l'oiseau de la paix, c'est encore une version du déluge. Là encore. Donc vous voyez, et ça, je ne sais pas, ils sont tellement proches que je ne sais même plus si je vous les représente ou pas, si c'est les mêmes ou pas. Donc vous avez vraiment là une copie qui se fait. Un autre des thèmes, c'est la métaphore du palmier. Le palmier, parce qu'ils utilisent plein de symboles. Le palmier, qui est le palmier de la philosophie, puisque y grimper, c'est très dur, et on se fait mal, mais au bout, les fruits sont délicieux et nourrissants. Et donc, c'est une métaphore de la religion, de la croissance, de la sagesse, de l'éducation, cette idée de le palmier de la sagesse, qu'on va retrouver à peu près à chaque fois. Hein, c'est que pour y grimper, regardez, c'est dur. Alors, celui-ci est un Beatus un peu plus récent. Mais c'est très difficile parce que c'est très coupant et c'est très dur. Mais si on veut vraiment les fruits, eh ben, ça se mérite là encore. Et vous voyez, on le trouve dans toutes les Beatus. Alors, plus, soit en pleine page, soit en miniature. Et on le voit encore ici. Et encore ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, autre chose qu'on va trouver aussi, mais qui n'est pas tout à fait dans le Beatus, c'est le jugement dernier. Encore cette idée de loi, de règles, de mérites, de promesses, d'efforts, de contraintes. Vous avez, là, on n'est plus uniquement dans quelque chose de mystique et philosophique, on établit. Alors, le jugement dernier, il faut savoir que justement, ça aura un tel succès que ça va être ensuite, on le sait, mais ça vient vraisemblablement des Beatus, sur tous les tympans des églises, d'abord romanes, puis gothiques. Mais en fait, les premiers que l'on voit sont dans les Beatus. Hein? Et alors, on va voir aussi qu'un des enjeux aussi culturels du Beatus, ça je vous avais dit, une fois qu'il a blindé et qu'il a établi que Beatus de Liébana a eu cette espèce de coup de génie de faire ses commentaires de l'Apocalypse, il a actualisé l'Apocalypse et son Beatus et son texte aussi par quelque chose de très en le reliant avec l'histoire, on va dire géopolitique des Asturies, parce que c'est lui. On sait que c'est Beatus lui-même, ce moine de Liébana, qui a créé quasiment le mythe de Saint-Jacques. Le mythe de Saint-Jacques, Santiago Matamores, donc Saint-Jacques tueur de morts, hein, qui va combattre les morts, et qui va effectivement, dont le corps va être enterré, dont les reliques vont être amenées, vont être enterrées à Saint-Jacques de Compostelle. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, je simplifie un petit peu. Parce qu'il est dit dans les légendes au 8e siècle, mais du vivant de Beatus, qu'au moment d'une des batailles très importantes contre eux, ce qu'ils appellent les Maures, mais en fait c'est les Espagnols musulmans, ou Visigoths, des batailles qui sont donc dans les montagnes des pics d'Europe, parce qu'on est à la frontière, là, il y a des grandes batailles qui se font, il est dit que dans une des batailles, on aurait vu ce cavalier blanc arriver et avec son épée chasser les Maures, et ce cavalier blanc, c'était Saint-Jacques. C'était Saint-Jacques qui venait sauver l'Espagne chrétienne des hordes horribles de musulmans, etc. Et donc, Saint-Jacques est devenu le sauveur des Asturies, le sauveur de la chrétienté. Or, Saint-Jacques, c'est le frère, dans la tradition, de Saint-Jean. Donc, quelque part, l'Apocalypse de Jean et la présence de Jacques en Espagne, c'est une manière de dire, regardez, l'Espagne, elle est sauvée, elle a deux pôles, vous avez Jean le théoricien, Jacques, l'homme de pouvoir, qui arrive, y compris, et c'est aussi comme le chevalier blanc de l'Apocalypse. Donc, tout d'un coup, Beatus, il a ce coup de génie, il dit, mais regardez, et puis, ils vont faire enterrer Jacques, pas au milieu des Asturies, mais tout au bout, en Galice. C'est-à-dire que pour aller rendre hommage à Jacques, ben, il faut traverser toutes les Asturies. C'est qu'on va établir un pèlerinage qui va blinder toutes les Asturies, tout le chemin de Saint-Jacques, va sanctifier tout le nord de l'Espagne. C'est-à-dire que ça va devenir un lieu sacré, et effectivement, passer de monastère en monastère pour occuper tout le nord des Asturies, et y compris, progressivement, ça va être presque un chemin obligé. Et puis, comme je le disais l'autre fois, on a la constitution de lieux à la fois sacrés et liés à l'espace géopolitique, Constantinople, Ravenne, qu'est-ce qu'on a aussi, Aix-la-Chapelle, et vous avez aussi Santiago de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle, c'est qu'on établit tout d'un coup aussi des lieux dans lesquels vous avez à la fois le pouvoir temporel, le pouvoir sacré, des reliques, et quelque part un balisage d'un territoire chrétien qui se constitue. Donc vous voyez que là-dessus, Beatus, c'est un véritable génie géopolitique et culturel, puisqu'il lit ces textes-là, il fait un ode à Saint-Jacques de Compostelle, et il dit effectivement, Saint-Jacques, c'est celui qui a sauvé l'Espagne, etc. Alors à partir de là, effectivement, eh bien, vous avez la constitution effectivement, d'une route, de plusieurs routes qui balisent, qui sont aussi la certitude d'avoir de l'argent, d'avoir des pèlerins, d'irriguer, etc. Et cette irrigation, tout ce lieu qui devient presque incontournable, qui a été quelque part validé, y compris par quelqu'un comme Alcuin, qui lui circule dans toute l'Europe occidentale, ce moine théoricien. Vous avez aussi l'idée que Beatus, eh bien, il défend, si vous voulez, la tradition catholique contre les hérétiques arianistes, visigoths, etc. Et donc, il constitue effectivement, lui aussi, une sorte d'entité politico-religieuse parfaitement établie. Alors, vous avez donc le jugement dernier. Alors, dans le jugement dernier, vous avez plusieurs figures. Vous avez le Christ triomphant, vous avez les évangéliques, vous avez les élus, vous avez les damnés, hein, que l'on va voir. Vous avez l'idée de constituer une sorte de paradis céleste. Bon, ça, c'est encore autre chose. À chaque fois, l'idée de rangement aussi, le jugement dernier, c'est cette idée aussi que, ben, à un moment, il va y avoir du tri, un peu comme le déluge, comme toutes ces choses-là. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ce qui a été vécu, etc. Alors, juste quelques petites annotations au niveau du style. Quand même, le style dominant des Beatus de Libana, c'est quand même... donc là, vraiment, vous n'avez quasiment jamais de scène naturaliste. On ne va pas dégrader de ciel, quasiment pas de terre, pas de végétation, pas de paysage. Les seuls animaux que l'on voit, c'est les animaux presque qui font fonction de symboles, les animaux du déluge, les animaux des évangélistes, presque des symboles, etc. Par contre, on voit beaucoup de figures humaines, mais qui sont presque à plat, sans modeler, et avec une qualité d'aplat absolument remarquable. Et des couleurs, et c'est là aussi qu'il y a un style, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé du style, j'ai juste parlé du contenu, il y a quand même, malgré toutes ces différences, des choses qui sont typiques de cet art des manuscrits espagnols, malgré leurs différences, ce sont les aplats et surtout les couleurs. Ben là, je suis en train de vous montrer un mauvais exemple. Mais quand même, des jaunes, des rouges, des bleus, et qui sont comme ça étendus. Chose bizarre d'ailleurs, c'est que là, vous avez les couleurs de l'Espagne, soit républicaine, soit contemporaine, hein, etc. Alors, on sait aussi qu'il y a certainement une influence, on va dire, mozarabe, orientale, qui arrive jusque-là, sur la qualité des couleurs, des aplats. Quand on regarde les manuscrits persans, quand on regarde tout ça, il y a des choses. Vraisemblablement, il y a aussi une porosité stylistique entre les artistes chrétiens et les artistes qui ont été de tradition orientale et musulmane. Alors, je continue un petit peu. Ah oui, alors ça, c'est assez compliqué aussi dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse, il y a le bilan des églises qui dépendent normalement de la chrétienté. Les églises du Nord et du Sud de l'Orient, je crois qu'il y a 7 églises, et à chaque fois, elles sont toutes représentées. C'est aussi cette idée de centraliser le christianisme, avec y compris l'espèce de zone. Et donc, il y a le bilan des 7, je crois que c'est les 7 églises qui dépendent de la religion. Alors, vous avez toujours la transmission du texte. Là, on voit aussi l'architecture, la construction justement des églises, la construction des bâtiments. Là, on la voit encore aussi. Alors, ensuite, dans le texte. Alors ça, c'est un truc un peu bizarre aussi. Là, on arrive vraiment dans l'Apocalypse. On quitte, si vous voulez, le Beatus, parce qu'il y a toute une introduction que Beatus va inventer, qui sont des commentaires et des introductions à l'Apocalypse. Et ensuite, on arrive vraiment dans l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse, là, il va falloir le traiter. Alors, l'Apocalypse, il y a une multitude d'épisodes et d'événements qui sont très complexes. Vous avez notamment l'apparition d'un personnage qui peut être assimilé à Jésus, à Dieu, ça s'appelle le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme apparaît avec un couteau dans la bouche ou une épée dans la bouche, etc. Il arrive avec une épée dans la bouche. En gros, c'est le justicier. Hein, et on le voit ici avec la clé aussi et l'épée dans la bouche. Alors regardez, il est ici représenté de manière diverse. Vous avez l'épée ici et la clé. Là, vous avez encore l'épée et la clé. Hein, et avec ici les sept, alors soit les sept églises, soit les sept sceaux, etc. Qu'on va trouver plus tard. Alors donc, vous avez des sortes de visions, toujours avec l'idée du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme serait une sorte d'avatar de Jésus, mais beaucoup plus fantasmé. Et eh ben, il vient régler les problèmes qu'il y a sur Terre. Alors, c'est assez complexe. Vous avez dans l'Apocalypse aussi Saint Jean. Alors, ce qui est assez drôle dans l'Apocalypse, c'est que l'écrivain Saint Jean lui-même se met en scène. C'est-à-dire qu'il se met en scène dans l'Apocalypse, comme étant effectivement la personne qui est dans plusieurs scènes. Et par exemple, là, on le voit, il se prosterne avant de recevoir le livre. Hein, donc, il y a les autres évangélistes, mais il y a lui, il y a les évangiles, mais l'Apocalypse, c'est aussi un autre texte qu'il faut aussi justifier. Donc, on représente souvent Saint Jean se prosternant. Voilà encore Saint Jean, cette fois-ci, reprenant encore le texte. Hein. Alors, là encore, Saint Jean se prosternant. Alors ça aussi, c'est toujours l'idée de structurer les sept églises qui dépendent du monde chrétien. Ensuite, alors là, vous avez les trompettes et les sceaux. Alors attendez, ça, je me perds un petit peu. Oui, alors voilà, c'est que vous avez, avant toute chose, oui, les chevaliers de l'Apocalypse. Alors, les chevaliers de l'Apocalypse, les cavaliers de l'Apocalypse, eux aussi, vont être des éléments de dévoilement, soit de menace, soit de sauvetage du monde, de toutes les plaies. Alors, les cavaliers de l'Apocalypse, donc, il y en a qui sont porteurs de menaces terribles, et puis vous avez le dernier qui est là pour, qui arrive théoriquement pour sauver le monde. Alors, ils sont annoncés par les trompettes qui vont aussi demander qu'on aille briser les sceaux. Les sceaux, une fois brisés, un peu comme des boîtes de Pandore, vont révéler, vont libérer des forces positives ou négatives, ou catastrophiques, etc., etc. Donc, au sens strict, vous avez des visions de fin du monde, de catastrophe, de destruction, etc. Un bouleversement général qui est l'occasion souvent de scènes extrêmement complexes. Alors, les quatre cavaliers sont souvent représentés, effectivement, sur les quatre couleurs différentes, avec leurs armes spécifiques, parce qu'ils ont des armes spécifiques, et donc, en gros, les voilà, à chaque fois représentés. Le cavalier blanc étant celui qui, normalement, arrive au dernier moment pour, finalement, sauver. Et on les voit ici représentés systématiquement. Et alors, d'ailleurs, vous le voyez, le cavalier blanc est entouré, ici, d'une auréole et d'une croix. Donc, c'est un peu une manière de désigner aussi les faux sauveurs, les faux prophètes, etc. Il faut se méfier, hein, des faux. Il y a des catastrophes qui sont annonciatrices d'horreur et d'autres qui sont faites annonciatrices peut-être d'un renouvellement. C'est un petit peu ça l'idée dans l'Apocalypse, de savoir y compris parmi les faux prophètes. Alors, Béatus utilise ça aussi parce que justement, comme il y a beaucoup de rivalités religieuses et des faits de puissance, il y a beaucoup de force en jeu. Vous avez les Visigoths, vous avez les musulmans, vous avez donc les chrétiens catholiques, etc. Vous avez des rivalités parfois de princes, donc c'est vrai qu'on est dans une situation tendue. Donc l'utilisation, on va dire, politique des cavaliers, et on la voit ici, représentée ici. Alors, les trompettes en général sont l'occasion, quand les anges sonnent de la trompette, eh bien vous allez avoir souvent des plaies qui vont s'abattre sur la terre, de la grêle, la neige, des pluies de sang, de la poussière, la chute des sortes de sauterelles, des grenouilles, des crapauds qui vont sortir des bouches, qui vont envahir le monde, etc. Vous avez une multitude de catastrophes et de monstruosités. Donc voilà ici un des anges, la quatrième trompette, un ange qui est en train de la sonner. Là encore, je ne sais plus quelle est la trompette ici représentée. Là encore, avec les apocalypses. Et vous avez aussi, alors ça c'est quelque chose qui est assez remarquable, mais j'arrive peut-être pour vous la montrer. Alors oui, vous avez les bêtes de l'Apocalypse aussi, les bêtes et les monstres. Les monstres qui vont surgir, alors ça peut être les hydres, une sorte de cerbère, c'est des dragons, c'est des serpents à multiples têtes, etc., qui sont aussi des sortes de métaphores, des dangers. Donc vous avez les plaies, vous avez les bêtes, vous avez les monstres. Donc on va, c'est l'occasion de les représenter, là encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là encore. Et puis, vous avez une scène qui est assez stupéfiante. C'est... alors là, en pleine page, vous avez une sorte de totalité, là, parce qu'on retrouve presque tout, retrouve à la fois le déluge, le jugement dernier, l'emprisonnement de la bête de la terre qui est emprisonnée, la bête, je crois, de la mer qui va surgir. Et vous avez ici cette femme qui apparaît dans les nuées, hein, qui est... Alors, il y a deux femmes qui apparaissent dans l'Apocalypse, notamment, trois, je crois. Vous avez cette femme qui est une sorte d'avatar qu'on pourrait assimiler à Marie, hein, mais qui n'est pas Marie, c'est comme le Fils de l'homme n'est pas Jésus, donc il y a des interprétations bizarres. Vous allez avoir aussi la femme qui accouche dans les tempêtes, les nuées, menacée par le dragon qui veut lui voler son enfant, etc. Donc, et tout d'un coup, vous avez l'ange qui va la sauver. Et vous allez avoir aussi la troisième femme qui apparaît, et c'est là où ça va nous ramener à nos vieux au cours du début, c'est la prostituée de Babylone. La prostituée de Babylone, parce qu'effectivement, un des enjeux... Alors ça, c'est la femme, voilà. Vous voyez la femme qui accouche ici, qui a son enfant, qui est menacée par les dragons, par les menaces. Là, vous avez la femme, on va dire, positive. Et c'est là où, j'en reviens, avant la prostituée de Babylone, au vieux mythe. C'est assez compliqué, hein, tout ça. C'est que, un des enjeux quand même du christianisme, comme on a vu de la tradition grecque, c'est aussi de se débarrasser de tous les mythes féminins, de toute cette puissance féminine. Dans la Bible, quasiment aucune femme avec un rôle positif. Vous avez la généalogie, c'est quasiment que des prophètes, des hommes, etc., des rois, des princes, etc. Les femmes, ça sert d'appoint, etc. Et si vous voulez, donc, vous avez vraiment... rappelez-vous pourtant la puissance des cultes et des mythes féminins, y compris en Égypte, etc. Et là, il s'agit de cadrer les figures féminines dans un univers très construit. Alors, oui, mais c'est la tradition de la maternité, mais uniquement. En plus, très passif. À part ça, elle fait rien.
Pas plus.
Voilà. Alors, par contre, vous avez cette femme-là. Si vous regardez bien, elle est à la fois debout sur la lune et dans le soleil, entourée d'étoiles. Or, c'est une chose qu'on trouve chez Ishtar, Inanna, Astarté, etc., qui est à la fois déesse de la lune et du soleil, du jour et de la nuit, toute puissante, etc. Et tout d'un coup, vous avez des sortes de réminiscences assez étranges du côté de Saint-Jean. De vieux mythes qu'il réintroduit dans l'Apocalypse, alors c'est vraiment très compliqué, sauf que ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit que quand Saint Jean écrit l'Apocalypse, il est en Asie Mineure, en Turquie. Il est en Turquie, et là encore, la Turquie actuelle, un des sites, un des lieux dans lesquels peut-être les cultes et les mythes féminins sont restés les plus puissants qu'on l'a vu récemment. Et puis, à propos de la Turquie, vous avez l'autre figure que l'on va voir, alors ça ce sont les bêtes de l'Apocalypse, mais on va arriver quand même à celle-ci. Alors voilà, c'est la prostituée de Babylone. Alors, la prostituée de Babylone, devant les portes de Babylone, effectivement, que l'on va voir à plusieurs reprises. Alors la prostituée de Babylone, soit elle est considérée comme symbolique, ce sont les hérétiques qui seraient en gros une religion prostituée parce qu'elle ne serait pas positive, mais ça peut être aussi les vieux mythes féminins turcs ou anciens ou anatoliens, dans lesquels, effectivement, rappelez-vous que la porte d'Ishtar à Babylone, c'est une des portes les plus importantes. C'est les cultes à Ishtar, Inanna, Astarté, on a vu même Chattaliguk, etc., tous ces mythes très puissants de femmes qui domptaient aussi les animaux, et elle est toujours en train de chevaucher la bête, hein, qui était aussi une force incroyable. Et cette espèce, justement, comme si cette féminité toute puissante était vue comme une menace, quelque chose qu'il fallait détruire et ne pas se laisser séduire. Et donc, dans le texte, effectivement, la prostituée de Babylone est très souvent représentée, toujours, regardez, chevauchant une sorte de bête monstrueuse, et là où c'est assez... Et on la voit, alors là par contre, on la voit toujours. Or, cette idée de dompter une bête et d'être liée à cette espèce, comme si c'était une menace des mythes orientaux, qui pesait encore dans les traditions populaires, et qu'il fallait éradiquer, en la présentant comme quelque chose, comme l'équivalent des monstres, des bêtes et de l'antéchrist. Et se tourner au contraire vers une figure totalement soumise et apaisée du monde féminin, Ève, Marie, ou cette femme qui accouche, qui est menacée par les dragons, mais qu'on va protéger. Donc une sorte de réduction du pouvoir féminin qui est assez claire.
Qu'est-ce qu'elle tient ?
Alors elle tient une coupe. Elle tient une coupe, mais si vous regardez bien, regardez, elle a cette coiffe, la tour qu'on avait aussi, quand je vous ai montré Perséphone, et puis etc. Toutes les...
La coupe, c'est quoi ?
Ben, c'était la tour de... Alors...
C'est pas du
foot,
c'est pas du vin, non ?
Non, alors... Mais elle est toujours, c'est une des figures que l'on trouve dans tous les textes de l'Apocalypse. Et encore ici. Oui, et toujours chevauchant les bêtes sauvages. Et rappelez-vous, le trône à Châtel-Luc, cette femme qui trône en dominant les bêtes sauvages, et qu'on va voir, y compris chez Tanit, etc. Donc, c'est assez drôle de voir ces espèces de résurgence et ces obsessions pour des mythes qui ne sont toujours pas morts, mais même plus de 1000 ans plus tard. Hein, c'est, y a quelque chose ici, parce que, évidemment, la moitié de l'humanité, il faut bien en faire quelque chose. Hein, donc, surtout avec une religion qui est très machiste, etc. Alors, justement, vous avez... on verra plus tard, ça c'est les jugements derniers. Vous avez les menaces sur les cités ou les villes, et vous avez aussi la destruction de Babylone, justement. Alors, Babylone, il ne s'agit pas de Constantinople, qui est chrétienne, mais Babylone, c'est en gros tout le monde avant Constantinople. C'est tout l'ancien monde pré-biblique et pré-chrétien, qui reste encore une menace. Un Babylone étant, vous avez l'antéchrist effectivement actif, mais vous avez en fait, derrière l'image de Babylone, c'est tout ce que ça pourrait représenter comme mythe, comme culture, comme cité, comme civilisation, etc. Autre chose, vous avez aussi sans doute un truc, alors, qui est presque d'actualité, c'est le ressentiment des petits bourgs et des petites villes et des petites campagnes pour les grandes villes. Hein, les grandes villes étant le lieu du péché, il y a voir comment ils votent maintenant, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a un ressentiment, sans doute, de tous ces petits trucs devant la grande ville, cité du péché, du malheur, de la confusion des genres, etc. Parce que là, comme si, effectivement, la grande cité de Babylone, on dit Babylone, c'est la grande cité. D'ailleurs, toutes les cités, souvent dans la Bible, elles sont détruites. Elles sont détruites parce qu'effectivement, c'est le lieu aussi du péché, de la confusion, des tentations, etc. Donc, les destructions de Babylone sont vues comme quelque chose ici de positif. Alors ensuite, les bagarres ultimes contre les bêtes et les menaces, on va les retrouver, les combats, et les luttes, alors, elles reviennent à plusieurs reprises. Après, il y a des choses que j'oublie toujours, l'idée des témoins. Alors juste un truc à propos de celui-ci. Je crois que c'est dans celui-ci, dans ce manuscrit précisément. On sait, parce qu'il a été signé, on le sait très bien, alors on commence à savoir à peu près qui les a illustrés. On commence à savoir les noms. Et notamment, je crois que c'est celui-ci qui a été illustré en grande partie par une femme, hein, qui s'appelle Nde, qui est une moniale, parce qu'il y avait des monastères féminins. Hein, et on sait que Nde a appris avec un maître, un illustrateur, et c'est elle ensuite qui a conduit presque tout la constitution de ce Beatus. Donc vous avez aussi quand même des choses assez étonnantes. Alors celui-ci, je crois... Alors attendez... Je crois que c'est le Beatus de Urgel, si je prononce bien. Alors attendez, Ende, c'est la bête de Babylone, la destruction de Babylone. Alors, juste quelques images importantes aussi dans les Apocalypses. Ah, vous avez une des figures que l'on retrouve assez souvent et qui va être reprise parfois dans la sculpture, c'est les vendanges célestes. Hein, vous avez cette idée que le dieu a semé, etc. Il faut aller cueillir les grains et les grappes, la métaphore du raisin, ici. Alors, ce qui est assez drôle dans l'Apocalypse, vous avez parfois des choses totalement mythiques, fantastiques, etc. Et puis vous avez aussi parfois des instructions assez drôles sur labourage, pâturage et agriculture, comme ici, les vendanges, le pressoir, pressoir à pied, pressoir à main, etc. Et les vendanges des moissons, les moissons du ciel ou les moissons du Christ, etc. Et vous avez d'ailleurs, ici on retrouve le Christ avec une faucille, hein, comme un jardinier aussi, comme un cultivateur. Alors là aussi c'est assez intéressant parce qu'on voit l'idée aussi qui nous fait remonter très très loin, c'est l'établissement, la sédentarisation, hein, la sédentarisation autour de l'agriculture qui est aussi le lieu de nouvelles cultures, de nouvelles religions. Comparé aux cultures des chasseurs-cueilleurs, du pastoralisme, etc., vous avez aussi des métaphores ici qui sont beaucoup plus du côté de la sédentarisation et effectivement l'idée de dominer, de structurer, de contrôler la nature. Alors tout cela est assez vaste et complexe, vous avez vu, j'ai essayé de vous donner des pistes, mais vous pouvez fouiller, vous verrez, alors c'est assez complexe, il y a l'internet, des Beatus, c'est de mieux en mieux connu. C'est de plus en plus, même certains que je vous ai présentés, là, puis je termine, vous avez vu, vous avez une sorte de... Voilà, Molero, là, par exemple, ici, tchouk, Molero, ce sont des facsimilés, en fait. Ils font des facsimilés de ces Beatus, chaque facsimilé vaut à peu près 300 euros. Si vous voulez vous faire offrir un facsimilé, vous pouvez les commander, mais c'est des très beaux livres, hein, qui sont effectivement très bien faits. C'est d'ailleurs comme ça qu'on réussit à récupérer pas mal d'images, parce que sinon, les vrais sont assez difficiles d'accès. Alors, juste, puis je termine, ce qui est intéressant, puis je termine avec les Beatus, la prochaine fois on verra, c'est que justement, ils ont constitué toute une iconographie, et ce goulot d'étranglement, y compris par Saint-Sever, le sud des Landes, c'est vrai que ça va faire naître aussi, une fois qu'ils vont dépasser le stade du livre, ils vont passer dans la pierre, l'architecture, et c'est les architectures, et c'est la sculpture qui va relayer et qui va devenir beaucoup plus populaire. Les Beatus s'adressent surtout à des lettrés, mais ensuite il va falloir, et à des princes. Il s'agit de constituer d'abord une élite, mais ensuite, cette élite, etc., il va falloir populariser ce savoir, et ça va passer par une architecture, par des sculptures qui seront être à direction de tout le monde. Et on va utiliser les trucs les plus impressionnants, le jugement dernier, les choses comme ça, on va simplifier encore toute cette iconographie pour s'adresser au peuple, mais on peut dire que c'est la naissance, etc. Alors, donc voilà, si vous voulez lire l'Apocalypse, allez-y, essayez d'y trouver quelque chose. Waouh! Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même l'occasion aussi de l'imaginaire, puisque justement, vous avez tout à coup, on s'échappe aux scènes simples de l'Évangile, et ça permet aussi d'aller vers le fantastique, et c'est pas inintéressant pour ça. Et si certains d'entre vous veulent copier, vous pouvez me passer des clés.